Vous écoutez KTO Radio, il est 23h. KTO Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui,
la Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 26e. Tandis qu'ainsi, le long du bord, l'un devant l'autre, nous allions, souvent le bon maître disait « Prends garde, profite de mes avertissements. » Le soleil, qui déjà de ses rayons remplissant l'Occident répandait sur l'azur du ciel une teinte blanche, me frappait l'épaule droite, et mon ombre faisait paraître la flamme plus rouge. Et en allant, je vis plusieurs ombres attentives à cet indice. Ce fut la cause pourquoi elles commencèrent à parler de moi et à dire « Celui-là ne paraît pas avoir un corps fictif. » Puis vers moi, quelques-uns, autant qu'ils pouvaient, s'avancèrent, ayant soin toujours de ne pas sortir des flammes. Ô toi qui, non par paresse, mais par respect peut-être va derrière les autres, réponds à moi qui brûle dans le feu et la soif. Non pas à moi seulement est de besoin ta réponse, tous ceux-ci en ont plus soif que d'eau froide l'Indien ou l'Éthiopien. Dis-nous d'où vient que tu fais de toi un mur devant le soleil, comme si tu n'étais pas encore entré dans les raies de ta mort. » Ainsi me parlait l'un d'eux, et je me serais déjà fait connaître si je n'eusse été attentif à une autre chose nouvelle qui m'apparut alors. Par le milieu du chemin embrasé, venait à l'encontre de celle-ci une troupe qui attira mes regards. Là, je vis des deux parts les ombres se hâter et se baiser l'une l'autre sans s'arrêter, contentes d'une brève caresse. Ainsi, dans leur brune file, les fourmis museau à museau s'approchent l'une de l'autre, peut-être pour s'enquérir de leur route et de leur fortune. Sitôt qu'après l'accueil amical, elles se séparent, avant d'avoir achevé le premier pas, chacune à l'envi se fatigue à crier, la troupe nouvelle « Sodome et Gomorre » et l'autre « Dans la vache entre Pasiphaé, pour que le taureau court à sa luxure. Puis, comme des grues dont les unes volent au mont Riphé, les autres vers les sables, celle-ci fuyant le froid, celle-là le soleil, une troupe s'en va et l'autre vient, retournant avec larmes au premier chant et au cri qui plus leur convient, et se rapprochèrent de moi, comme auparavant, ceux qui m'avaient prié se montrant de visages attentifs à écouter. Moi qui deux fois avais vu leur désir, je commençais « Ô âme sûre, un jour de reposer en paix. Ni vers ni mur mes membres ne sont restés là, mais avec moi ils sont ici avec leur sang et leur jointure. D'ici en haut, je vais pour cesser d'être aveugle. Là est une dame qui m'en a obtenu la grâce, ce pourquoi par votre monde je porte ce que j'ai de mortel. Mais... et que bientôt soit rassasié votre plus grand désir, de sorte que vous ouvre ces demeures le ciel qui, plein d'amour, souvent se dilate dans l'espace, dites-moi, afin que sur le papier je le retrace, qui vous êtes, et quelle est cette troupe qui s'en va derrière vous. Comme le rustique et grossier montagnard stupéfait se trouble, et regardant reste muet lorsqu'il entre dans une ville, ainsi en sa contenance se montra chaque ombre. Mais après qu'elles eurent secoué la stupeur, qui dans les grands cœurs promptement se dissipe, « Heureux, » recommença celle qui la première nous avait parlé, « Heureux toi qui, pour mieux vivre, de nos régions consulte l'expérience. Gente qui ne vient pas avec nous, commis l'offense reprochée jadis à César triomphant, lorsqu'il s'entendit appeler reine. Pour cela, ils s'en vont criant « Sodome », s'accusant eux-mêmes comme tu l'as ouï, et la honte au feu vient en aide. Notre péché fut hermaphrodite, mais parce que violant les lois humaines, nous obéîmes comme les bêtes à la convoitise, pour notre opprobre par nous est rappelé, quand nous nous séparons, le nom de celle qui se fit bête, s'enfermant dans une bête de bois. Maintenant que tu sais nos actes, et de quoi nous fûmes coupables, que si par notre nom tu voulais nous connaître, point n'est temps de le dire et je ne saurais. Bien pour moi, satisferais-je ton vouloir, je suis Guido Guinicelli, et ici je me purifie parce que je me suis repenti avant le terme extrême. Tel que dans la tristesse de Lycurgue devinrent deux fils en revoyant leur mère, tel devins-je, mais avec moins de fruits, quand j'entendis se nommer lui-même mon père et celui des autres meilleurs que moi, qui jamais chantèrent de douces et gracieuses rimes d'amour. Et sans écouter ni parler, pensif, longtemps j'allais le regardant, et à cause du feu, je ne m'approchais pas plus. Quand de regarder je fus rassasié, je m'offris à le servir avec cette affirmation qui fait croire. Et lui à moi, « Par ce que j'entends, tu laisses en moi un tel vestige et si éclatant que le laiter ne peut ni l'effacer ni l'obscurcir. Mais si est vrai ce que viennent de jurer tes paroles, dis-moi quelle est la cause pourquoi, par ce que montre ton dire et ton regard, je te suis cher. Et moi à lui, vos doux vers, qui, autant que durera la langue moderne, rendront chers vos écrits. Ô frère, dit-il, celui que mon doigt t'indique, et devant il montra un esprit, fut meilleur artisan du parler maternel. En vers d'amour et prose de roman, il a surpassé tous, et laisse dire les sots qui croient que l'emporte celui de Limoges. Au bruit, plus qu'au vrai, ils prêtent l'oreille, et ainsi arrêtent leur jugement avant d'avoir écouté l'art ou la raison. Ainsi, pour Guitton, firent beaucoup d'anciens de voix en voix, lui donnant le prix jusqu'à ce que par plusieurs le vrai l'a vaincu. Maintenant, si t'es accordé un si grand privilège qu'il te soit permis d'aller au cloître dans lequel du collège le Christ est abbé, dis-lui pour moi des patères, autant qu'en avons besoin, nous de ce monde où n'est plus nôtre le pouvoir de pécher. Puis peut-être pour faire place à un autre qui était près de lui, il disparut à travers le feu, comme à travers l'eau le poisson qui descend au fond. Je m'avançai un peu vers celui qu'il m'avait montré et dis que mon désir préparait à son nom une gracieuse demeure. Il commença libéralement à dire « Tante m'abellis vostre cortues de man, qui euno me puos ne vuel a vos cobrire. Je suis Arnaut, que plore ven cantan, concitos te vei las passada folor, et vei Josène lo jouet, qu'espère de nan, araos prec per aquela valor, que os guida al som de la scalina, sovigna aos atam de ma dolor. » Ce qui signifie « Tant me plaît votre courtoise demande, que je ne puis ni ne veux vous cacher mon nom. Je suis Arnaud qui pleure et vais chantant, par ce brûlant chemin, la folie passée, et je vois devant moi le jour que j'espère. » Or, vous prie, par cette vaillance qui vous guide au sommet de l'escalier, de vous souvenir de ma douleur. » Puis il se cacha dans le feu qui les épure. Chant 27e. Comme lorsqu'il vibre ses premiers rayons, là où son Créateur versa son sang, l'Èbre coulant sous la haute balance, et Canon il réchauffe les eaux du Gange, ainsi était le soleil, de sorte que le jour baissait, quand resplendissant de joie, l'ange de Dieu nous apparut. Hors de la flamme, sur le bord il se tenait et chantait Beati mundo corde, ce qui signifie « heureux les cœurs purs », d'une voix beaucoup plus vivante que la nôtre. Ensuite, « Plus loin ne va-t-on, âme sainte, si auparavant on ne sent la morsure du feu. Entrez-y, et au chant d'au-delà, ne soyez pas sourde. » Ainsi dit-il quand nous fûmes près de lui, par quoi je devins en l'entendant, tel que celui qu'on met dans la fosse. Je tendis en avant les mains jointes et m'allongeai regardant le feu et vivement me représentant les corps humains que déjà j'avais vus brûler. Vers moi se tournèrent mes bons guides et Virgile me dit « Mon fils, souffrir ici l'on peut, mais non mourir. Souviens-toi, souviens-toi si sur Gérion même, sauf je te guidais, que ferais-je maintenant que je suis plus près de Dieu ? Tiens pour certain que fusses-tu 1000 ans dans le sein de cette flamme, elle ne pourrait te dépouiller d'un cheveu. Et si peut-être tu crois que je te trompe, approche-toi d'elle et que tes mains en fassent l'épreuve avec le bord de ta robe. Dépose désormais, dépose toute crainte. Avance et va avec confiance. Et moi cependant je m'arrête contre ma conscience. » Lorsqu'il me vit obstinément demeurer immobile, un peu troublé, il dit « Mon fils, entre Béatrice et toi est ce mur. » Comme au nom de Thisbé, Pyram près de la mort ouvrit les yeux et la regarda, alors que le mûrier devint vermeil, ainsi ma dureté s'étant amolie, je me tournai vers le sage guide, lorsque jouit le nom qui toujours germe en ma mémoire. Sur quoi il secoua la tête et dit « Comment ? Voulons-nous rester ici ?» Ensuite il sourit, comme on sourit à l'enfant que séduit une pomme. Puis devant moi, il entra dans le feu, priant Stas, qui auparavant nous avait longtemps séparés, de venir derrière. Quand je fus dedans, je me serais jeté dans du verre bouillant pour me rafraîchir, tant l'ardeur était sans mesure. Cependant le doux père, pour me réconforter, en allant parlait de Béatrice, disant « Il me semble déjà voir ses yeux ». Nous guidait une voix qui au-delà chantait, et nous, attentifs à la voix, dehors nous vîmes, là où l'on montait. Venite benedicti patris mei, ce qui signifie « Venez, béni de mon Père », résonna au-dedans d'une lumière qui était là d'un éclat tel qu'elle m'éblouit et que je ne pus la regarder. « Le soleil descend, ajouta-t-elle, et le soir vient. » Ne vous arrêtez point, mais hâtez le pas, tandis que l'Occident ne se noircit pas encore. Le chemin montait droit à travers le rocher, se dirigeant de manière que par devant, je recevais les rayons du soleil déjà là. Et peu de degrés nous avions monté, lorsque par l'ombre qui derrière nous s'allongeait, moi et mes sages, nous nous aperçûmes que le soleil se couchait. Et avant qu'en toute son étendue immense, l'horizon eût pris une seule teinte et que partout la nuit se fût épandue. Chacun de nous d'un degré se fit un lit, la nature du mont nous ôtant le pouvoir plutôt que le désir de monter. Telles les chèvres, indociles et vagabondes sur les hauteurs avant d'être repues, paisibles deviennent en ruminant silencieuses à l'ombre, tandis que le soleil darde ses feux, gardé par le pasteur qui, appuyé sur sa houlette, veille à leur sûreté, est-elle le berger qui loge dehors, tranquille passe la nuit près de son troupeau, attentif à ce que point ne le disperse la bête féroce ? Tels, tous trois, étions-nous alors, moi comme la chèvre et eux comme les pasteurs, d'ici et de là, serrés par les bords. Là, peu du dehors était à découvert, mais par ce peu, je voyais les étoiles plus brillantes et plus grandes que d'ordinaire elles ne le paraissent. Ainsi ruminant et ainsi les regardant, me prit le sommeil qui souvent, avant qu'il soit, sait ce qui sera. À l'heure, je crois, où sur le mont commença à luire Cythérée, qui du feu d'amour toujours paraît ardente, il me semblait en songe voir une dame jeune et belle se promener dans une prairie cueillant des fleurs, et chantant, elle disait « Sache quiconque demande mon nom, que je suis Lia, et je vais mouvant alentour mes belles mains pour me faire une guirlande. Pour me plaire au miroir, ici je me pars. Ma sœur Rachel du miroir, elle, jamais ne s'éloigne, et tout le jour elle est assise. À voir ses beaux yeux, elle se complaît comme moi, à morner avec les mains. Le voir est sa joie et l'agir la mienne. Déjà, devant les lueurs de l'aube, d'autant plus douces aux voyageurs que moins loin ils sont de la patrie où ils reviennent, fuyaient de tous côtés les ténèbres et avec elles mon sommeil. Par quoi je me levais, voyant les grands maîtres déjà debout. Ce doux fruit que sur tant de rameaux va cherchant le souci des mortels, aujourd'hui apaisera ta faim. Ces paroles m'adressa Virgile, et jamais don ne fit un plaisir égal. Tant désir sur désir il me vint d'être en haut, qu'à chaque pas ensuite pour voler, tant désir sur désir il me vint d'être en haut, qu'à chaque pas ensuite pour voler, je me sentais croître les ailes. Lorsque tout l'escalier au-dessous de nous eut été parcouru, et que nous fûmes sur la dernière marche, Virgile sur moi fixa ses yeux et dit « Tu as vu, mon fils, le feu temporel et l'éternel, et tu es parvenu en un lieu où par moi-même plus rien je ne discerne. Par industrie et par art, ici je t'ai amené. Prends maintenant ton bon plaisir pour guide. Tu es hors des routes escarpées, hors des voies étroites. Vois le soleil qui reluit devant toi, vois l'herbe, les fleurs et les arbustes que cette terre produit d'elle-même. Tandis que plein de joie viennent les beaux yeux, dont les larmes me firent venir à toi, tu peux t'asseoir et ensuite aller à travers ces campagnes. N'attends plus mon dire ni mon signe, droit et saint est ton libre arbitre. Et ce serait une faute que de ne pas agir suivant son jugement. C'est pourquoi, souverain de toi-même, je te couronne et te mitre. » Chant 28e. Désireux de reconnaître, au-dedans et autour, la divine forêt épaisse et verdoyante qui, aux yeux, tempérait le jour nouveau, sans plus attendre, je laissais le sentier et lentement, lentement, je pris par la campagne qui allait s'élevant et d'où s'exhalait une suave senteur. Un léger souffle, toujours le même, me frappait le front, pas plus doux qu'un vent, par lequel les rameaux agitaient se courbaient, tous du côté où le Saint-Mont projette sa première ombrée. Tant néanmoins ne s'inclinait-il que les petits oiseaux cessassent d'exercer tous leurs arts sur les cimes. Mais, avec des chants de joie, ils recueillaient les premiers souffles entre les feuilles, qui tenaient le bourdon dans leur concert, tel que celui qui se forme de rameau en rameau dans la forêt de pins sur le rivage de Chiassi, quand le sirocco se déchaîne au dehors. Déjà, mes palans m'avaient porté si avant dans l'antique forêt que je ne pouvais plus voir par où j'étais entré. Quand voilà que d'aller plus loin m'empêcha un ruisseau dont, vers la gauche, les petites ondes ployaient l'herbe croissant sur les bords. Toutes les eaux, ici les plus pures, paraîtraient altérées par quelques mélanges près de celle-là qui ne cache rien. Quoiqu'un peu brune, elle coule sous l'ombre perpétuelle qui jamais ne laisse pénétrer un rayon de soleil ou de lune. J'arrêtai mes pieds et des yeux je passai au-delà du ruisseau pour admirer la grande variété des frais mets. Là, comme apparaît subitement une chose qui, émerveillant, détourne de toute autre pensée, m'apparut une dame qui, seulette, allait chantant et cueillant çà et là les fleurs dont était diapré tout son chemin. Ô belle dame, qu'enflamment les rayons d'amour! Si j'en crois la ressemblance, qui d'ordinaire rend témoignage du cœur, qu'il te plaise, lui dis-je, t'approcher assez de ce ruisseau pour que j'entende ce que tu chantes. Tu me rappelles où et quelle était Proserpine quand sa mère la perdit et qu'elle perdit, elle, le printemps. Comme, sans s'élever de terre et tout en soi, glisse une dame qui danse, mettant à peine un pied devant l'autre, ainsi sur des fleurs vermeilles et jaunes, vers moi glissa-t-elle comme une vierge qui baisse ses yeux modestes, et elle satisfit mes prières, s'approchant assez pour que le doux son vînt à moi, avec le sens qu'il contenait. dès qu'elle fut là où de ses ondes le beau fleuve baignait l'herbe, de lever les yeux, elle me fit la faveur. Je ne crois pas que tant de lumière brillât sous les cils de Vénus blessée par son fils, hors de toute sienne coutume. Sur l'autre rive, à droite, elle souriait, cueillant de ses mains les fleurs que la profonde terre produit sans semence. De trois pas nous séparait le fleuve, mais l'Hellespont, là où passa Xerxès, qui réfrène encore tout orgueil humain, ne fut pas plus en haine à Léandre, à cause de ses flots épandus entre Sestos et Abydos, que ne me l'était celui-là, pour ne point s'être ouvert alors. « Vous êtes nouveau ici, » commença-t-elle, « et peut-être parce que je ris en ce lieu choisi pour nid à la race humaine, quelque doute vous tient-il en étonnement. Mais le psaume d'Electasie répand une lumière qui peut éclairer votre intelligence. Et toi qui vas devant et qui m'as prié, parle si tu veux entendre, car je suis venu pour répondre à toutes les questions autant qu'il suffit. L'eau, dis-je, et le bruit de la forêt combattent en moi la foi récente en une chose qu'on m'a dite contraire à celle-ci. D'où elle ? Je dirai de quelle cause procède ce qui t'étonne, et je dissiperai le brouillard qui t'offusque. Le souverain bien qui se complète en soi seul créa l'homme apte au bien, et lui donna ce lieu pour art d'éternelle paix. Par sa faute, peu il demeura ici. Par sa faute, en pleurs et labeurs, il changea un vertueux rire en un doux jeu. Afin que le trouble qu'engendre au-dessous de ce lieu les exhalaisons de l'eau et de la terre, qui suivent autant qu'elles peuvent la chaleur, ne nuisit point à l'homme, ce mont vers le ciel s'est tant élevé et de ce trouble est exempte depuis l'endroit où il se ferme. Or, parce que tout l'air se meut circulairement avec le premier mobile, si d'aucun côté ce cercle n'est rompu, sur cette hauteur que de toutes parts environne l'air pur, ce mouvement frappe et fait résonner l'épaisse forêt. Et tel est le pouvoir de la plante frappée, que de sa vertu elle imprègne le souffle, lequel ensuite en circulant la répand autour. Et l'autre terre, selon qu'elle y est apte par elle-même ou par son climat, conçoit et produit de diverses vertus des arbres divers. Cela entendu, on cesserait de s'étonner quand quelques plantes y poussent sans semences apparentes. Et tu dois savoir que la campagne sainte où tu es est pleine de toute semence et qu'elle a en elle un fruit qui là ne se cueille point. L'eau que tu vois ne jaillit point d'une source que renouvelle des vapeurs que le froid condense, comme un fleuve qui perd et reprend haleine. Mais elle sort d'une fontaine perpétuellement durable qui, ouverte de deux côtés par le vouloir de Dieu, recouvre autant qu'elle verse. De ce côté de son cours, elle possède une vertu qui ôte la mémoire du péché. De l'autre, elle rend celle du bien qu'on a fait. Ici, elle s'appelle l'été, et là, Œnoé. Et point elle n'opère si auparavant d'ici et de là, on a goûté. La saveur surpasse tout autre. Et bien qu'il se puisse qu'apaiser soit ta soif, sans que je te découvre rien de plus, je te gratifierai encore d'un corollaire, et je ne crois pas que moins de prix ait pour toi mon dire s'il s'étend au-delà de ma promesse. Les antiques poètes qui chantèrent l'âge d'or et ses félicités sur le Parnasse songèrent peut-être de ce lieu. Innocente ici fut l'humaine racine, ici un printemps perpétuel, et toutes les sortes de fruits, ce fleuve est le nectar dont tous parlent. Je me retournai alors vers mes poètes, et je vis qu'ils avaient souri à ces dernières paroles. Puis sur la belle dame, je ramenai mes yeux. Chantant comme une femme éprise d'amour, elle continua après la fin de ces paroles. « Beati quorum tecta sunt peccata », ce qui signifie « Béni soient ceux dont les péchés ont été couverts ». Et comme à travers les ombres sauvages s'en allaient seules des nymphes, désirant l'une fuir, l'autre voir le soleil, lors elle se mut, remontant le fleuve le long de la rive, et moi comme elle, à petits pas suivant ses petits pas, et entre les siens et les miens, il n'en était pas sans, lorsque les bords également se courbèrent, de sorte que je marchais vers le levant. »
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kteoradio.com et sur l'application KTO Radio.
KTO Radio.
Thank you.
Vous écoutez KTO Radio. Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. La mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Picardie au nord de l'Île-de-France et plus particulièrement dans l'Oise qui correspond aux limites du diocèse de Beauvais. Dans cette édition, on suivra les paroisses du secteur du Vexin-Tel pendant une soirée de préparation à l'effusion de l'Esprit-Saint avant la Pentecôte et on découvrira l'importance du témoignage de foi des saintes carmélites de Compiègne, un témoignage bien vivant aujourd'hui. Quelques mots sur l'Oise pour commencer. Ce territoire picard aux portes de l'Île-de-France est à la fois périurbain et rural, un département très boisé et marqué par les cultures agricoles. Le sud du département gagne des habitants grâce à son attractivité pour les travailleurs parisiens, notamment les villes de Creil ou Senlis. C'est d'ailleurs le seul département des Hauts-de-France à voir sa population augmenter. Et c'est un diocèse qui comprend, pour des raisons historiques bien sûr, trois cathédrales, à Noyon, Senlis et Beauvais. Pour parler du diocèse de Beauvais, justement, je reçois son évêque, Mgr Jacques-Benoît Gonin. Bonjour Mgr.
Bonjour.
Je viens de présenter ce territoire de l'Oise. Comment est-ce que vous pourriez, comme évêque, nous parler un peu de l'Église catholique dans l'Oise, des forces vives de cette Église, pendant que s'affichent quelques chiffres clés de ce diocèse ?
Eh bien, elle est présente, cette église, sur l'ensemble du territoire du département, même si elle a une physionomie très, très diversifiée, comme vous venez de le dire. Le sud est sous la pression démographique de la région parisienne, le nord est plus rural, et d'une certaine manière, même si l'île est encore loin, sous une forme d'attirance, d'attractivité de l'île. Et une des communautés chrétiennes, une église de l'Oise qui sait vivre dans ces différents territoires et qui a une belle vitalité, que ce soit dans des zones plus urbaines ou dans des zones plus rurales, avec des paroisses qui font plus de 80 clochers et puis d'autres qui en comportent moins, mais qui ont beaucoup d'habitants quand même.
On va découvrir avec vous ce diocèse. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Mgr Jacques-Benoît Gonin, vous êtes donc évêque de ce diocèse de Beauvais depuis 2010, né en 1952 à Thoiry dans l'Ain. Après des études de droit public, vous avez été diplômé de l'Institut Régional d'Administration de Lyon, puis attaché au ministère de l'Équipement. En 1982, vous êtes engagé dans la communauté de l'Emmanuel. Vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Paris en 1985 et parmi toutes vos missions, je vais très vite, vous avez notamment été responsable des séminaristes et des prêtres membres de la communauté de l'Emmanuel de 1995 à 2002. Dans la foi au Fils de Dieu, c'est votre devise épiscopale tirée de la lettre aux Galates. On va commencer, Mgr, si vous voulez bien, par parler de la cathédrale, puisque cette année, la cathédrale de Beauvais fête les 800 ans du début de sa construction. Racontez-nous comment est-ce que vous vous saisissez de cet événement pour rejoindre le plus grand nombre, jusqu'en 2027 d'ailleurs.
Disons que 800 ans, c'est une belle durée. Pour Beauvais, c'est une durée tout à fait particulière parce qu'il y a eu peu de périodes où cette cathédrale n'a pas été en travaux. Et ceux qui l'ont fréquentée ou qui y sont allés se sont aperçus qu'elle n'avait pas de nef. Donc c'est une cathédrale tout à fait particulière puisque l'Assemblée se réunit dans la travée du transept, dans le transept. Mais c'est quand même un lieu très, très important pour la vie du diocèse, même si cette cathédrale est concurrencée en quelque sorte par la cathédrale de Noyon et par celle de Senlis. Et cette cathédrale de Beauvais est donc 800 ans, beaucoup une belle vie, une certaine difficulté à l'habiter parce que pendant l'hiver il y fait, comme on peut l'imaginer, assez froid.
On voit l'intérieur magnifique de cette cathédrale à l'instant.
Donc là il faut vraiment faire des efforts pour y pouvoir y célébrer et y rester pendant la durée d'une célébration. Mais néanmoins, c'est un bel édifice qui, notamment, sauf cette année, mais a réuni toutes les ordinations, a assemblé le peuple de Dieu pour toutes les ordinations presbytérales qui y ont eu lieu depuis 2010. Pour moi, ça en fera 11.
Et qu'est-ce que vous proposez justement pour les 800 ans? Qu'est-ce que l'Église catholique propose?
Alors, c'est un peu difficile parce qu'il se trouve que les travaux dans cette cathédrale sont encore en cours. Après des travaux sur l'extérieur, les toitures, maintenant sont des travaux en intérieur, sur les voûtes et sur les étais qui soutenaient les piliers, les colonnes. Et donc actuellement, la cathédrale est privée de presque, on pourrait dire, de toute la croisée du transept. Donc on ne peut plus y réunir que 300 personnes, grosso modo. Donc il y a des célébrations, j'y ai célébré l'entrée dans l'année jubilaire, l'entrée dans les 800 ans de la cathédrale. Il y a eu une présentation de tapisseries qui sont en préparation, qui sont en création et qui sont, dont les cartons sont présentés dans le chœur et qui a donné lieu à une célébration aussi, une présentation avec les autorités civiles.
Oui, on
civiles,
les a vus
etc.
tout à l'heure, tout à fait.
Et puis, il y aura d'autres célébrations au mois de juin pour la fête de Saint-Angadrem qui est la fête de la patronne de Beauvais.
Justement, on a découvert que justement à la fin du mois de juin, pour cette fête, vous alliez annoncer la sortie d'un santon. Alors on est très loin de Noël, mais comment est-ce que cette idée est arrivée et qui est Saint-Angadrem?
Alors Saint-Angadrem est la patronne de Beauvais. Alors c'était une jeune femme que son père voulait marier un gentil damoiseau et elle voulait consacrer sa vie à Dieu. Alors, la légende dit que la date du mariage approchant, elle s'en est remise à Dieu et elle a été affectée d'une forme de lèpre qui ne l'a plus rendue aussi attirante.
Et donc son promis s'est détourné d'elle.
Le renoncement de son père à ce mariage. Et la légende a encore dit qu'après, quand son père a eu consenti, elle est revenue dans sa beauté originelle. Et donc, voilà. Mais elle a fondé une abbaye de moniale contemplative bénédictine. Et puis, elle est donc la patronne. Et lorsqu'au XVe siècle, il a fallu défendre la ville qui était attaquée par les Anglais, on a promené ses reliques sur les remparts de la ville. Elle a pu défendre, encourager les Beauvaisiens à garder la ville, à tenir la ville.
On va découvrir concrètement une des paroisses du diocèse, puisque pour le 7 juin, veille de la Pentecôte, vous invitiez tous les chrétiens du diocèse à vivre un grand rassemblement diocésain à Compiègne. Et cela faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu un tel rassemblement. Pour se préparer à la fête de la Pentecôte, toutes les paroisses étaient ainsi appelées à suivre un parcours spécifique. Et les 4 paroisses du secteur du Vexintel ont opté pour 7 semaines de préparation à l'effusion de l'Esprit-Saint, un parcours préparé par la communauté de l'Emmanuel. Notre journaliste Anne-Chantal Giraud s'est rendue à l'une de ces rencontres un mardi soir à l'église de Chambly, au sud de l'Oise.
C'est bien un chant à l'Esprit-Saint qui résonne ce soir dans l'église de Chambly. Une 50aine de personnes y sont rassemblées pour la 4e soirée du parcours de préparation à la Pentecôte.
C'est un parcours de préparation à l'effusion de l'Esprit-Saint, donc de découverte de l'Esprit-Saint pour se préparer à vivre cette expérience qu'ont vécu les apôtres le jour de la Pentecôte. L'idée, c'est de pouvoir demander au Seigneur de renouveler en nous les dons qu'il nous a faits à notre baptême, à notre confirmation. Et c'est intéressant de pouvoir vivre ça avec les paroissiens en groupe pour embarquer dans un projet commun, mais aussi permettre à chacun en fait d'approfondir sa prière personnelle.
L'occasion pour les participants d'apprendre à mieux connaître l'Esprit-Saint, qu'ils soient des habitués ou en découverte de l'Église.
J'ai décidé de faire ce parcours pour approfondir déjà les notions de l'Esprit-Saint, parce que j'avais pas trop de notions en fait. L'Esprit-Saint, ça me paraissait un peu abstrait en fait.
J'ai cette envie d'être nourrie des témoignages des autres, la joie d'être entourée de chrétiens, la bienveillance.
Après un temps de louange, la soirée se poursuit par des vidéos explicatives.
Donc, 4e soirée, l'expérience de l'effusion de l'esprit, Donc on va mettre la vidéo pour suivre l'enseignement.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous arrivez peu à peu à élargir la brèche par laquelle le Seigneur va pouvoir venir remplir vos vies de tous ses dons.
Vient ensuite un temps de Lectio Divina.
Multiples seront les manifestations de mon esprit pour qu'il goûte ma sagesse.
Puis un temps d'échange en groupe. Ce type de proposition rythmée et variée donne un véritable élan aux participants dans leur vie spirituelle.
Alors déjà, cette dame-là qui présente, je la trouve lumineuse.
Le livret m'accompagne en guide de prière, en guide de texte à méditer, en guide de parole d'évangile. Voilà, c'est surtout ça.
Ça nous apprend à prier et puis chacun a un cheminement différent.
J'essaye d'être plus régulière en fait dans ma prière pour demander l'abandon.
Moi, j'espère que ça contribue en fait à renforcer les liens fraternels entre les paroissiens, parce que on a besoin en fait pour vivre notre foi de faire partie d'un corps qui est l'Église.
Et c'est lors de la grande fête diocésaine le 7 juin prochain que les fruits de ce parcours pourront être pleinement partagés.
Pourquoi est-ce que vous avez justement invité les catholiques à se préparer d'une façon toute particulière à la fête de la Pentecôte en cette année jubilaire ?
Alors, depuis 15 ans que je suis dans le diocèse, je trouve que les communautés ont vécu de très belles choses et en même temps ont été éprouvées par la diminution du nombre des prêtres, par les transformations qu'il a fallu vivre, par les événements externes qui sont venus impacter la vie des communautés chrétiennes et des chrétiens. Et il m'a semblé qu'il fallait revenir au cœur de notre foi chrétienne, c'est-à-dire au Seigneur Jésus, bien évidemment, mais à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui peut nous aider à garder l'espérance dans ces situations qui sont parfois imprévues, parfois prévues, mais qu'il faut vivre de manière très incarnée, non plus seulement de manière intellectuelle. Et donc, c'est ce qui m'a amené à proposer à l'ensemble du diocèse, aux communautés qui le voudraient bien, à toutes les paroisses notamment, de vivre ce cheminement d'effusion de l'esprit. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est bien évidemment notre investissement, notre engagement, mais c'est surtout notre confiance et notre disponibilité, notre docilité à l'Esprit-Saint. Si nous savons marcher avec Jésus sous la conduite de l'Esprit-Saint, nous ne savons pas de quoi exactement tout le chemin va être fait, mais nous serons sur la bonne route et le Seigneur saura donner la fécondité à ce que nous essayerons de faire, chacun à sa mesure.
Dans les moments aussi forts, il y a eu bien sûr le 8 mai dernier la messe d'action de grâce qui a été célébrée dans le diocèse pour la canonisation des carmélites de Compiègne. 16 religieuses guillotinées en juillet 1794 qui ont été reconnues saintes par le pape François en décembre dernier. Un petit musée leur est aujourd'hui consacré dans l'actuel Carmel de Compiègne à Jonquière pour garder leur mémoire. Blandine Guénaud, guide conférencière et bénévole au Carmel de Compiègne, fait régulièrement visiter ce musée. Elle nous explique l'importance du témoignage de foi des saintes carmélites de Compiègne, encore bien vivants aujourd'hui.
Les carmélites de Compiègne, elles sont missionnaires à leur manière, c'est-à-dire qu'elles ont donné leur vie pour les autres. Vous en avez une qui, en montant à l'échafaud, dit « Mais comment pourrions-nous leur en vouloir ?» En parlant de ses bourreaux, il nous ouvre les portes du ciel. C'est vraiment un exemple pour les chrétiens et surtout le fait que elles sont saintes, mais elles ont leurs petits défauts. Il y a des petites bagarres, il y a certaines qui rechignent avec l'acte d'offrande, d'autres qui sont enthousiastes dès le départ. On a toute l'humanité avec elles. Pour moi, qui te fais visiter régulièrement, c'est plus facile de montrer quelque chose. Là, c'est des éléments qui les ont marqués, imprégnés. Vous avez là des livres de prière, un chapelet, les têtes de statues qui ont été décapitées. Et surtout, le plus émouvant, c'est leur croix de profession. Les carmélites aujourd'hui, tout l'ordre du Carmel, a porté cette canonisation et veut porter le message des 16 saintes de Compiègne, c'est-à-dire la paix dans l'Église, la paix dans l'État. Il y a une carmélite qui est décédée il y a peu, qui disait « Il faut être dans l'abandon. Aujourd'hui, il y a des difficultés. Le Seigneur donnera la grâce. » Donc, abandon la confiance.
Je le disais, il y a donc une messe d'action de grâce célébrée le 8 mai. On va voir quelques images. Comment est-ce que cette canonisation, quel impact est-ce que ça a dans le diocèse de Beauvais ?
Alors, il est assez divers, reconnaissons-le, mais pour Compiègne, la communauté des saintes, désormais, est une communauté qui marque beaucoup la vie. Parce que leur liberté, leur fermeté pour obéir à leur conscience, le soutien mutuel qu'elles se sont donné dans la communauté qu'elles constituaient, et puis cette affirmation de nous vivrons fidèlement notre engagement vis-à-vis du Christ, tout ça nous parle aujourd'hui.
Qu'est-ce qui résonne le plus aujourd'hui?
Je pense quand même que c'est le fait qu'elles aient donné leur vie pour que la paix soit rendue à l'Église et à l'État. À l'Église et à l'État, pas au royaume. À ce moment-là, on a bien essayé de donner une tonalité politique à cet engagement. Mais elle disait fidélité à nos engagements, nous les avons librement posés et nous voulons maintenant donner notre vie pour que la paix soit rendue à l'Église et à l'État qui en ont bien besoin compte tenu de la situation dans laquelle on est. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, c'est la paix qui est un peu le point marquant, enfin le point qui concentre beaucoup l'intérêt des Compiègnois et des chrétiens sur ces saintes.
On le disait tout à l'heure, le diocèse effectivement a connu beaucoup de réorganisations de paroisses, une réorganisation aussi territoriale comme récemment à Clermont et Marseille en Beauvaisis. Avec ces fusions de paroisses qui s'accélèrent face à la pénurie de prêtres en paroisse, la pénurie de prêtres dans le diocèse, comment est-ce que vous voyez l'avenir des paroisses tout simplement ?
Alors, d'abord, moi, je n'ai pas reparlé de réorganisation ou de restructuration. J'ai voulu parler de reconfiguration. Et reconfiguration, ça évoque le visage, la figure. Donc, le visage, c'est le nouveau visage de l'Église de Jésus dans ce diocèse, dans ce département de l'Oise. Et ce nouveau visage, eh bien, il va se faire avec des prêtres. Je ne veux pas de communauté chrétienne sans prêtres, avec des diacres, avec la vie consacrée, même si elle est plus limitée aujourd'hui. Et puis, avec des communautés où chacun prendra sa part dans la mission de l'Église, alors avec son âge, avec ses contraintes familiales, personnelles, son génie. Donc, il s'agit pour nous de redonner une nouvelle figure. Et moi, j'ai très confiance dans l'avenir. Je ne sais pas à quoi va nous conduire ce que nous sommes en train de vivre. Mais je suis sûr que si nous... Se bouger, ça vaut mieux que de ne rien faire. Si on se bouge, on pourra encore continuer à se bouger. Si on ne se bouge pas maintenant, qu'on attend que le temps décide à notre place, alors nous serons ankylosés, nous ne pourrons plus rien faire. Tandis que le fait que nous ayons à bouger les uns par rapport aux autres, en nous remettant au Seigneur, en assumant notre histoire et en assumant aussi les défis de l'Évangile dans la situation, dans le temps où nous sommes, tout ça va nous... Le Seigneur saura faire les choses et pas avec moi, avec mon successeur, et tout sera très bien.
Il y aura justement une ordination sacerdotale le 22 juin prochain à Senlis, c'est la première depuis 5 ans. Cyril Gonzalez qui sera donc ordonné prêtre. C'est un bel encouragement après l'année pour les vocations qui avaient été décidées l'année dernière.
Alors discuter ou minorer notre joie. Mais en même temps, je pense que tout ce que nous avons fait pendant cette année de prière pour les vocations, et notamment pour les prières prière pour les vocations de prêtres diocésains, on n'a pas encore eu beaucoup de résultats. Moi, je me permets de le dire publiquement.
On sait que l'Esprit-Saint peut faire mieux.
Il n'y a pas de doute. Mais c'est qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce que veut nous dire le Seigneur? Parce que je crois qu'il veut donner des prêtres. En même temps, la situation dans laquelle nous sommes, voilà, peut-être doit en continuer à évoluer, vraisemblablement pour que chacun soit bien convaincu, chaque fidèle soit bien convaincu qu'il a une place à tenir dans la mission d'Église. Ça ne peut pas être simplement quelques-uns.
On a parlé des communautés vivantes. Peut-être un mot sur la particularité du patrimoine religieux dans le diocèse, puisque vous êtes sur un territoire où il y a beaucoup d'églises, d'anciens monastères, d'anciennes abbayes qui marquent les villes et les villages de l'Oise et dans lesquels malheureusement les catholiques ne se retrouvent plus régulièrement. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui s'inquiètent de cet apparent abandon du patrimoine religieux ?
Alors d'abord, ça n'est pas un abandon. Moi, je réponds très volontiers à toutes les demandes qui me sont faites. Il y a quelque temps, j'ai béni des cloches, j'ai béni une église nouvellement restaurée, ou une tranche de travaux, ou un coq sur. Donc, c'est pas un abandon, mais c'est vrai que nous ne sommes plus en mesure, aujourd'hui et dans les années qui vont venir, d'animer chaque paroisse du diocèse, il y en a plus de 680, comme on le faisait par le passé, avec notamment des messes. Mais j'espère bien que les chrétiens vont comprendre conscience du défi que représente pour eux le fait de faire vivre quand même ces églises d'une nouvelle manière, par une ouverture, par un temps de prière, par le chapelet, par de différentes manières. Je crois que la plupart des maires sont d'ailleurs très, très, très partants pour que l'Église continue à animer ces églises, même si les travaux qui sont engagés dans un certain nombre d'entre elles leur font désirer aussi qu'elles ne soient pas utilisées que par la prière ou le culte parce que de fait nous ne sommes pas en mesure d'y avoir une animation hebdomadaire ou même mensuelle.
Monseigneur Jacques-Benoît Gonin, je vous propose maintenant de passer à la séquence des questions de terrain. Et on a une première question de Jacques, qui est un ancien agriculteur et qui habite à Bornel.
Monseigneur l'évêque, comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture, du monde agricole et des jeunes du monde agricole ?
Alors, j'aimerais, mais les moyens à mettre en œuvre me sont pour le moment un peu difficiles à mobiliser. J'aimerais que tout ce qui concerne la transition énergétique, climatique, etc., écologique en général, associe tout le monde et qu'il n'y ait pas de transition qui diabolise quiconque ou qui marginalise ou qui écarte ou qui méprise quiconque et notamment les agriculteurs. Mais ça, c'est une phrase un peu trop générale et il faut maintenant l'incarner et ça, c'est un peu plus compliqué.
On a une autre question de Carole qui est engagée dans la pastorale des jeunes.
Nous voyons beaucoup de jeunes arriver dans notre église et comment les fidéliser ? Ils sont pleins de joie, remplis de feu de l'esprit quand ils arrivent. Mais comment faisons-nous pour les maintenir dans cette chaleur qu'ils ont, dans ce feu qu'ils ont? Et quelle mission pourrait-on leur donner lors des messes, par exemple?
Alors, les fidéliser, je dirais que ça commence par bien les accueillir, bien les accompagner le temps qu'ils sont là. On sait que les jeunes participent d'une société dont on dit parfois qu'elle est liquide, donc ça veut dire qu'on peut pas organiser et mettre en place des recettes dont on est sûr qu'elles produiront les effets que nous voulons. Mais il s'agit de les accueillir, de bien les accompagner et de leur donner leur place. Et ça, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Et une place qui n'est pas forcément toujours bien définie au départ, mais Ils peuvent assez rapidement, notamment à partir de la confirmation, ils peuvent avoir une place dans les assemblées de prière, dans l'Eucharistie, ou bien dans différentes activités, dans différentes animations, y compris vis-à-vis des jeunes.
Puis on a aussi une question d'Adeline, qui est catéchiste dans la paroisse Saint-Louis-en-Thel.
L'évocation peut être aussi source de mission. Et c'est ça qui est difficile à discerner. L'évocation, ce n'est pas forcément le sacrement sacerdotal, mais autre chose. Et ça, c'est vraiment difficile à faire comprendre aux jeunes de maintenant et à présenter les choses. Donc comment présenter les différentes vocations et missions dans l'Église ?
Alors, je crois d'abord, il faut présenter les sacrements comme des événements à vivre et pour vivre. C'est-à-dire, c'est pas, on collectionne pas les sacrements, le baptême, ensuite la première communion, ensuite la confirmation, puis ensuite on verra bien. Et puis, bon, on a tout fait, c'est bien.
On a coché les cases.
Non, c'est vivre les sacrements comme des forces, des énergies qui nous sont données pour vivre notre vie chrétienne. Et ça, c'est je pense que c'est parfois un peu neuf. On se focalise sur la préparation des sacrements sans se focaliser sur le fait que les sacrements ne sont pas une fin en soi, mais sont une grâce que Dieu nous fait pour mieux vivre notre vie chrétienne, notre mission dans l'Église, alors parfois de manière plus typée, avec des sacrements qui ordonnent à la mission, comme pour les prêtres et pour les diacres. Mais vous voyez, les sacrements sont faits pour la mission et pour vivre notre attachement au Christ et notre vie au Christ.
C'est ce qu'on peut retenir, les sacrements pour la mission. Une dernière question, Monseigneur Jacques-Benoît Gonin, à la fin de cette émission. Si vous deviez donner aux habitants de l'Oise un rendez-vous à donner à tous ceux qui nous suivent, lequel serait-ce ?
À court terme et de manière très concrète, ce sera Lourdes du 7 au 12 juillet, parce que dans le diocèse, le pèlerinage à Lourdes, qui rassemble aussi bien des malades, des personnes bien portantes, des personnes handicapées, malades psychiques et des jeunes, c'est un grand temps de rassemblement et de renouvellement dans notre vie, dans notre joie de croire. Alors, bien évidemment, je commence par cela. Et puis, autrement, il se passe toujours des choses dans les communautés chrétiennes, ne serait-ce que le dimanche. Alors, il faut peut-être faire quelques kilomètres, mais il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des chrétiens qui sont heureux d'aimer le Seigneur, d'en témoigner, de le vivre, de célébrer. Eh bien, allez les visiter, allez les rencontrer, que soyez contaminés.
Merci beaucoup, Monseigneur Jacques-Benoît Gonin, d'être venu ici sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur ces événements et sur le diocèse de Beauvais, rendez-vous sur le site oise.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.